Nous reprenons le suivi Pamia à la page Yud, le chapitre 6. Tellement à laquelle, au cours du chapitre, on va venir détailler les caractéristiques de l'âme animale. Parce que certes, d'une façon générale, la configuration de l'âme animale est bien du type de celle de l'âme divine. Elle présente 10 forces, tout comme l'âme divine, et des levushim, 3 vêtements, comme la pensée, la parole et l'action, comme l'âme divine. Mais nous verrons que de par son appartenance à la klipat noga, et bien tant les forces que les vêtements eux-mêmes vont témoigner de leur possibilité de chuter au sein même des chaleurs klipot atmeot, au sein même des 3 forces impures, comme nous l'expliquera donc au cours de ce shiur la noix d'Aken. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Yud, le chapitre 6. Vigné, zé, le mazé, asa et l'okim. Et voici, à quelque chose, Dieu a fait son contraire, comme nous l'enseigne cette très célèbre sentence de Kohelet. C'est-à-dire que nous comprenons bien de là que l'âme animale et ses forces et ses habits, eh bien, seraient le contraire, si l'on l'exprimerait ainsi, de l'âme divine et de sa structure avec ses forces et ses levushim et ses vêtements. Moshe nefesh elokit kloula me'eter sirot kdushot, parce que de la même façon que l'âme divine se trouvait englobée, constituée selon vue des 10 sirot de la sainteté, mitlabeshet beshlosha levushim kdoshim, et se trouvait habillée dans les 3 habits saints, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action de la Torah et des mitzvot, eh bien, car, en effet, des citra rara, de la même façon, l'âme de l'autre côté, mot à mot, c'est-à-dire l'âme animale, se trouve émaner, mais klipat noga, de la klipat intermédiaire, qui est appelée la klipat qui peut éclairer, qui est donc, non pas comme l'âme des umot haolam appartenant au shalosh klipot atmeot, 3 forces impures, mais l'âme animale du juif appartient à la klipat noga, elle peut être transformée en bien, comme elle peut tomber dans les forces du mal à proprement parler, mais le terme par lequel elle se trouve être appelée, klipat noga, vient bien désigner que son essence est qu'elle peut potentiellement éclairer. Cette âme animale chez le juif, un meloubéchet bedam à Adam, se trouve être habillée dans le sang de l'homme, et elle-même, kulula, se trouve être donc englobée, constituée, mais esther kitrine de mesaavuta, des 10 forces, mot à mot, des 10 couronnes de l'impureté. Alors nous voyons que dans la sainteté, les forces de l'âme divine s'appellent les sirotes, parce que la sira rappelle ce qui brille, de l'étymologie de saphir, parce que la sira rappelle le sipour, l'âme divine vient raconter, sous-entendu, vient exprimer un enseignement par le biais de ses forces, ses sirotes, mais aussi la sira rappelle le phare, la frontière, parce que l'âme divine, justement, sait se donner une limite, elle sait s'ordonner et se limiter, alors qu'en revanche, eh bien, les forces de l'âme animale sont appelées par le terme de kitrine, les couronnes, avec une formulation araméenne, une terminaison araméenne, pour désigner donc leur impureté, parce que tout ce qui vient être exprimé par l'âme animale ne se trouve que dans le niveau de matif, d'où le terme de couronne, qui n'est que matif. Mais ici, ce terme de matif est utilisé dans un sens avec une connotation de l'égriouta, dans un sens qui est mauvais, et explique le père du rabbi, le terme de keter, c'est-à-dire de kitrine, de couronne au pluriel, est utilisé volontairement dans la rabbinout, pour nous enseigner que de la même façon, le terme de keter vient désigner justement le monde qui surplombe Atzilut et lui-même se trouve être composé de 2 éléments, un tourné vers le Ma'atzil et l'autre vers les Nétalim, un tourné vers Dieu et l'autre vers les créatures, parce que ce monde de Keter constitue une charnière, et bien de la même façon, Kitrine de Mesavuta, les forces de l'âme animale constituent une charnière entre l'âme animale et les chaloches Klipotot-Neot, entre l'âme animale du juif d'un côté et de l'autre côté les 3 forces impures totalement. D'où le terme de kitrine. Alors, dans lequel nous précise quelles sont ces kitrines, les metavuta, chien, sheva midot raot. Il s'agit des 7 attributs, des 7 sentiments mauvais, que sont donc le chesed, etc., dans le mal. Avaot, narba, yzot, raim, anisaniel, qui proviennent donc des 4 fondements mauvais mentionnés plus haut, c'est-à-dire dans le premier chapitre. Les sechel, amolidan, anichlat, les chalosh. Et l'intellect qui vient les faire naître, qui vient faire naître donc ces mauvaises midotes et qui se subdivise donc en 3 que sont la sagesse, la compréhension et la connaissance, l'attachement et qui sont d'une façon générale makor amidot qui constitue le makor, la source même des mauvais sentiments qui amidot en les fierer à sechel parce que nous dévoile la Zaken, et bien chez tout individu les midotes sont fonction de la dimension qui leur est donné par l'intellect. Et la Demoiselle vient illustrer cette notion, qui a Katan, Rochek, Veoev, Dvarim, Tanim, parce que l'enfant vient désirer et vient aimer des sujets qui sont petits, proutés à RR, des sujets donc de petite dimension, spirituelle sous-endue, les fiches et Sirlo Katan, et cela parce que son intellect est petit, et Kaster, la Hatik, Barim, Yekarim, Yoter, Mehem, et son intellect donc est beaucoup trop étroit pour saisir des sujets précieux, beaucoup plus précieux que sont sous-endus les sujets auxquels il désire. Vehren, Mitkaas, Mitkates, Mitbarim, Tanin, de la même façon, l'enfant vient se mettre en colère et vient être irrité à part de petits sujets, Vehren, Mitbarout, Ushar, Midot, de la même façon, l'enfant se trouve être émerveillé, sous-endu par des sujets aussi très petits, et de la même façon, en ce qui concerne les autres sentiments, les autres attributs qui viennent finalement régir la vie de l'enfant. Nous comprenons bien que le sechel, l'intellect, vient donc permettre le dévoilement des midot. Et pour cette raison, d'ailleurs, la Noa Zaken avait bien précisé que le sechel constitue le makor des sheva midot, la source même des sept sentiments. Parce que nous, Rabbi, comprenons bien que dans l'âme divine, lorsque la Noa Zaken s'est exprimée justement à propos de l'âme divine, il avait parlé des sentiments, des midot, qui étaient noldot, mais un sechel, qui venait de naître du sechel, qui venait vraiment être engendré par le sechel. Et la Noa Zaken avait bien précisé tout d'abord les forces intellectuelles, puis les sept midot, alors qu'ici, eh bien, bien au contraire, la Noa Zaken prend soin de mentionner tout d'abord les midot, ensuite le sechel, et il précise à ce propos que le sechel constitue le makor, la source des midot. Ce que nous précise-t-il donc à propos de l'âme animale, les midot sont les IRR à sechel, sont finalement en fonction de la qualité ou en fonction de la taille, de la grandeur de l'intellect, si on nous exprime ainsi. Alors, la raison de ce changement dans le langage d'Anne Morazaken en ce qui concerne l'âme divine et en ce qui concerne l'âme animale est compréhensible, et bien finalement illustrer la différence de Mahout de l'âme divine, parce que la nature de l'âme divine est marquée par la prédominance du sechel, d'où d'ailleurs parfois son appellation par le terme de Adam. Alors qu'en revanche, l'âme animale, sa maout, sa nature profonde, est bien réalisée par les midot, par les sentiments. Ces sentiments viendront diriger l'âme animale, et le sechel de l'âme animale ne viendra que justifier les sentiments déjà étaient nés, qui déjà avaient pris naissance d'une façon naturelle, et qui trouveront donc une justification et donc un kiyum dans le temps, par le sechel. Donc le sechel de l'âme animale ne vient pas faire naître réellement les midot de l'âme animale. Le sechel de l'âme animale n'agit que comme une aide pour la idgalout, pour le dévoilement des midot tisot, des midot donc naturels de l'âme. C'est pourquoi ici, eh bien, la Noa Zaken a pris soin de noter d'abord les midot, puis le sechel, et enfin il a expliqué que le sechel n'était pas comme dans l'âme divine la source de la naissance des midot, mais le sechel n'est que le makor pour les midot, c'est-à-dire qu'il n'interviendra comme une éver, comme une aide pour la idgalout des midot tisot, des midot donc naturels de l'âme animale. Comprenons bien cela est une base essentielle donc de la structure de l'âme animale. Les éther, les pnot et loup, atmeot, kishadam, nechashev, baen, et les 10 niveaux cités, précités donc de l'intellect et des midot de l'âme animale qui sont donc impurs lorsque l'homme vient à penser, baen, lorsque l'homme donc vient à penser à ce sujet, au medaber, au osé, ou lorsque l'homme vient à parler ou encore à agir, c'est-à-dire lorsqu'il vient investir ses forces de l'âme animale dans les levushim, dans les pensées, paroles, actions, arrêt, marsavato, chez Bemocho, voici qu'alors que sa pensée de son cerveau, Vediburo, chez Bepib, ou encore la parole qui émane de sa bouche, Vekoar, Amaase, chez Beyadav, ou encore la force d'agir, d'action qui se trouve au sein de ses mains, d'une façon générale, ou chez Arevarav, ou encore des autres membres, eh bien, Nikraïm, les bouchers, Metaru, sont appelés par le terme d'Abi, impur, les serbes, notes et loups, atmeot, et cela pour les 10 niveaux impurs que constituent les kitrines des Mesaruta, chez Miklachot, Bahem, Beshat, Maase, Odibur ou Marshava, qui viennent s'habiller au sein donc de ces Levushim, et cela donc Beshat, Maase, Odibur ou Marshava, au moment donc de l'action, de la parole ou de la pensée. V.N.M. Kol Amaasim Asher Naasim Tachat Hashemesh, et elles sont donc toutes les actions qui sont réalisées sous le soleil, Asher Akol Evel Verahot Roar, dont tout n'est que vanité et mauvais esprit. Et donc la Torah nous demande bien de nous sanctifier dans tout ce qui est permis, dans l'ensemble, kol ha-ma'asim, dans toutes les actions, comme le souligne le Rabbi. Enfin, le père du Rabbi fait remarquer que ici, dans ce chapitre, lorsque la Torah vient parler donc de l'âme animale, eh bien, les mourines sont subdivisées en chorma bina da'at, et la Torah utilise le terme de nichlak. Les mourines sont nichlak, il y a une subdivision, une séparation l'une de l'autre, alors que, à propos de l'âme divine, la Torah avait utilisé le terme de kolel, les mourines, kolel englobe chorma bina da'at. Parce que dans la sainteté, il y a bien un lien entre la chorma et la bina et le da'at qui sont développés à partir de la chorma ou de la bina. Par contre, dans l'âme animale, au sein du processus de l'âme animale, eh bien, la chorma peut être développée de façon individuelle et il n'y aura pas de lien entre la bina et l'étincelle de compréhension qui lui avait pourtant donné naissance au départ, la chorma. De la même façon, l'homme pourra s'attacher à un processus qui sera différent, c'est-à-dire il aura un da'at qui sera différent, qui aura été mis là, qui aura été séparé du processus de sa compréhension profonde. C'est cela justement qui marque l'âme animale. Et nous reprenons donc dans les mots, « Ukmo shtakim bezohar deshalar she'en tviru deruha roulé » comme donc le Saint Zohar nous le fait remarquer dans la parasha de Béchalar. Il s'agit des sujets qui ont été brisés, notamment par le mauvais esprit donc des Juifs. « Vehen kol adiburim » de la même façon en ce qui concerne toutes les paroles, « Vekol amarchavot » et toutes les pensées, « Asherlo la chaîne et mar » qui ne sont pas pour le service de Dieu, ou le retsono, pour accomplir sa volonté, de la avodato, ou encore pour son service. Et donc, par voie de conséquence, il ne s'agit pas alors d'une aide pour l'âme divine, mais bien d'une aide pour l'âme animale. Chez Zéhou, Pirou, Shachon, Sitra, Rara, cela constitue donc l'explication de l'autre côté, Pirou, Sad, et Harer, il s'agit donc de l'autre côté, un côté qui est autre, qui est différent de celui de la sainteté, chez Notsad Agdusha, ce n'est pas donc le côté de la sainteté, les Tsad Agdusha, et Noéla, Ashra'a ve'am shahat midushato shel HaKadosh Baruch Hu, alors qu'en revanche, le côté de la sainteté n'est que la résidence et la descente de la sainteté de Dieu béni soit-il, ve'en HaKadosh Baruch Hu shora, et là, d'abord, chez Batel et Chloé Barer, et Dieu ne peut résider, béni soit-il, que sur une chose qui lui est annulée. Ben Betoel Mamash, Kemlachim et Yonim, qu'il s'agisse d'une annulation concrète, vraiment matérielle, sous-rendue, comme les anges les plus supérieurs, ou Ben Bekoar, qu'il s'agisse d'une annulation potentielle, Kechol Ish, Israël, les Mata, comme doit le réaliser tout homme juif en bas dans le monde matériel qui pourtant doit venir réaliser une annulation de sa personnalité, de sa propre Metsihout à Dieu. Et le Rabbi définit ce que constitue véritablement le bitoul, l'annulation à Dieu. Il s'agit d'une yetsia, dit le Rabbi, d'une sortie, une Metsihouto, de la personnalité, de l'existence même, des paramètres que constitue l'existence de l'individu. Ainsi détermine donc le Rabbi notion de bidoul, une yetsiyah mitsiyuto, une sortie donc de sa propre mitsiyut, de sa propre existence, des paramètres qui constituent son existence. Chez des kohol yot batel mamash egabe akadosh bohru, et tout homme juif a potentiellement, eh bien, la possibilité d'être annulé vraiment à Dieu béni soit-il, et cela be mitsirat nafsho al kudushat Hashem, et cela en venant réaliser le mitsirut nefesh, le don de sa propre personnalité, de sa propre personne, des paramètres qui constituent sa personnalité pour Dieu, pour le service de Dieu. Mais la reine Amrou Rabotinizal, c'est pourquoi sont venus nous enseigner nos sages que leur souvenir c'est une bénédiction pour nous. Et cela donc dans les Pirkei Avot, Shafilou, Echad, Shiyoshev, Veosek, Batora, Shrina, Shruya, Roulé, même un juif qui vient s'asseoir et s'occuper de la Torah, eh bien la Shrina vient résider sur lui. Et les Pirkei Avot d'expliquer, Verol, Be, Asara, et dans toute assemblée sous-rendue de 10 personnes, de 10 juifs qui s'occupent de Torah, un temps soit peu, Shrinta, Sharia, eh bien, la Shrina vient à résider, Léolam, et cela d'une façon éternelle. Souvenons-nous donc du mot de la Noire Zaken, même lorsque ces 10 juifs ne viennent pas à s'occuper de Torah, eh bien, quand même, la Shrina réside toujours, parce que l'assemblée de 10 juifs constitue une assemblée parfaite, et réalise ainsi le potentiel pour la Hashrat Hashrina, pour la résidence de la Shrina. Eux, concrètement, expliquent donc nos Rebbeim, le fait que 10 juifs arrivent à s'assembler ensemble, à s'unifier autour d'un sujet qui n'est pas de la Klipa, bien sûr, eh bien, cela est suffisant, cela est un témoin suffisant et même parfait pour Dieu d'une annulation, d'un bitoul de l'étude, d'une annulation de la personnalité de chacun, au point qu'ils savent s'unifier, qu'ils savent se rassembler ensemble, et cela provoque donc la Hashrat Hashkina. Cela est un enseignement pour nous, une aura de la valeur finalement d'un rassemblement de 10 juifs, parce que cela donc encore une fois constitue bien le bitoul, une annulation suffisante pour Dieu pour qu'il puisse faire résider sa Shrina dans les mondes les plus inférieurs. Et donc en définitive, l'âme Zaken est venue rappeler les différences de l'âme animale face à l'âme divine. Certes, l'âme animale a bien une configuration qui est semblable à celle de l'âme divine. Il existe cependant des différences qui sont liées à sa maout, par exemple dans l'ordre bien d'apparition des sentiments dans le service de Dieu qui viennent précéder l'apparition ou la mise en avant de l'intellect. Par exemple encore, comme l'a bien précisé le père du Rabbi, la distinction qui existe entre chacune des composantes des mourines, c'est bien un terme de nirlak qui est utilisé ici face au terme de Itkalel, de Itkalelut, de Nirlal, qui est utilisé à propos de l'âme divine, bien que d'une façon générale, encore une fois, la configuration de l'âme animale est semblable à celle de l'âme divine. Bien sûr, son appartenance est bien de la Klipat Noga, et non pas de la sainteté. Cette Klipat Noga pourra faire chanceler le juif dans les Shalosh Klipot Atmeot, dans les trois forces impures que Dieu nous en préserve, mais bien heureusement, eh bien, cette appartenance à la Klipat Noga de l'âme animale pourra aussi permettre l'élévation de l'âme animale dans la sainteté. Alors, pour conclure, rappelons cet enseignement du Rabbi qui, analysant la Shita de Beit Shammai à propos justement des Nérodes de Hanouka, Beit Shammai demande à ce que nous commencions l'allumage le premier jour en témoignant du plus fort, du degré le plus intense de la lumière, c'est-à-dire 8 bougies le premier jour, puis en diminuant chaque jour d'une bougie jusqu'à atteindre une seule bougie le dernier jour. Le Rabbi explique donc dans la Sira que Beit Shammai vient exprimer la façon dont on doit lutter contre l'âme animale, parce que tel était le cave Agvura qui était propre de Beit Shammai. Beit Shammai vient exprimer le fait que, justement, pour savoir lutter contre l'âme animale, il faut au début donner l'ensemble des forces profondes de l'âme divine qui permettront de bloquer dans un premier temps l'âme animale dans ses expressions, puis une fois que la décision sera prise, une fois que l'ensemble des forces auront été développées en un moment brutal et franc, eh bien, les forces à développer ne seront qu'en décroissant, ne seront pas aussi fortes, ne seront pas aussi nécessairement brutales et directes. Tel est justement un des degrés d'interprétation de la Marloket entre Beit Shammai et Beit Hillel. Et Beit Hillel, bien sûr, lui voyait l'expression de l'accomplissement des bonnes intentions, des bonnes mitzvot, des bonnes actions, et lui demande que le premier jour nous allumions qu'une seule bougie, parce que une seule bougie permettra en fin de compte, eh bien, d'arriver à la Shlemout le huitième jour, d'arriver donc par la suite à l'image, à la réalisation d'innombrables bonnes actions et de l'étude de la Torah, avec Shlemut, avec perfection. Mais quoi qu'il en soit, Beit Shammai exprime bien la façon dont chacun doit venir exprimer sa virulence, sa férocité, si l'on veut s'exprimer ainsi, à l'égard de l'âme animale. Et cela permettra sans aucun doute, eh bien, l'annulation du rocher de l'exil. Yeah,